VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, du mardi 9 juillet 2019. Raissa Girondin en votre compagnie, voici les titres. En Algérie, les manifestations se poursuivent. Malgré l'expiration de son mandat, le président par intérim Abdelkader Ben Salah, toujours au pouvoir. Le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Oul Mekhtir est toujours en détention depuis 5 ans. En Afrique de l'Ouest, l'inégalité est à un niveau critique selon Oxfam dans nos dossiers du jour.
À moins qu'il y ait une volonté politique pour mettre en place des mesures qui permettent de freiner cette concentration et de redistribuer davantage la richesse.
Au Qatar, les talibans et les Américains ont signé une feuille de route pour la paix en Afghanistan sans le président afghan Ashraf Ghani. Et les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne se dégradent avec la publication de câbles diplomatiques critiquant l'administration Trump. Vous retrouverez bien sûr le journal de la CAN. Aucun match aujourd'hui, mais on connaît les quarts de finale. Mais tout d'abord, le journal. En Algérie, quelques centaines d'étudiants et enseignants ont encore manifesté ce mardi pour la 20e semaine d'affilée. Ils réclament un changement de régime et la libération des détenus politiques. Jacques Aristide.
Système des gages, Algérie libre et démocratique, c'est ce qu'ont scandé les manifestants dans le centre d'Alger au milieu d'un fort déploiement policier. La présidentielle prévue le 4 juillet et rejetée par les manifestants a été annulée faute de candidats. Alors que le délai de 90 jours prévu par la Constitution pour l'intérim à la présidence, exercé par Abdelkader Ben Salah, expire ce mardi, Monsieur Ben Salah a dit qu'il resterait à son poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président. De nombreux slogans visent également le général Gaïd Salah, véritable homme fort du pays depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Le général Gaïd Salah refuse depuis des semaines les revendications du mouvement de contestation pour la mise en place d'instances de transition débarrassées de tous les fidèles d'Abdelaziz Bouteflika.
En Tunisie, le président Bejib Saïd Bessebsi va devoir trancher sur des amendements controversés à la loi électorale. Ils sont susceptibles d'écarter des candidats de poids des scrutins législatifs et présidentiels de la fin d'année. Ces amendements posent de nouvelles conditions aux candidats, dont le fait de ne pas avoir distribué d'aide directe à des citoyens, ni d'avoir bénéficié de publicité politique. Cela pourrait empêcher une candidature du mania des médias Nabil Karoui, qui tire sa popularité de campagne de charité télédiffusée et est poursuivi pour blanchiment d'argent, ou encore de la mécène Olfa Terras Rambourg. En Mauritanie, le blogueur Mohamed Cheikh Oul Mekhtir, maintenu en détention au-delà de sa peine après une condamnation pour un article jugé blasphématoire envers l'islam, c'est une nouvelle voie repentie hier, une condition posée par des chefs religieux pour sa libération et Kabadou.
Mohamed Ould Mehdir, 36 ans, est détenu depuis janvier 2014. Il a vu sa condamnation à mort pour apostasie ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017 après avoir exprimé son repentir. Il aurait donc dû être remis en liberté, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. Il a été placé depuis en détention administrative. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, avait le 20 juin justifié cette situation par la sécurité personnelle du blogueur, aussi bien que celle du pays. Le président Aziz s'est réuni lundi soir avec des oulémas, érudits et imams et la rencontre a abouti à une décision d'un repentir public du blogueur sur les médias et réseaux sociaux. Monsieur Ould Mehdir a recommencé lundi soir à se repentir sur sa page Facebook. Je réaffirme ici mon repentir devant Allah, le Seigneur des mondes, a écrit le blogueur dans un message en arabe, son premier post sur Facebook depuis 2014. C'est un bon processus qui est engagé, il devrait être libre depuis longtemps, mais seul le président Ould Abdelaziz peut le faire, a déclaré l'avocate du blogueur, Maître Fatima Mbaye.
Le Royaume-Uni a annoncé le maintien de sa présence au Mali pour 6 mois de plus en soutien à la force française anti-djihadiste Barkhane. Le pays a déployé 3 hélicoptères Chinook, 100 d'hommes depuis juillet 2018. Ils resteront jusque juin 2020, selon un porte-parole du ministère de la Défense. Au Nigeria, des heurts ont éclaté entre des partisans d'Ibrahim Zakzaki, leader chiite emprisonné, et les forces de l'ordre aux abords de l'Assemblée nationale à Abuja. L'Assemblée nationale a précipitamment suspendu sa séance plénière à la suite de ces violences. Une manifestation du mouvement islamique du Nigeria a pris un tour violent lors des manifestants se sont emparés d'un fusil appartenant à l'un des policiers en position à l'entrée principale du bâtiment. Ibrahim Zakzaki est détenu depuis des affrontements entre ses partisans et l'armée en 2015. Au Zimbabwe, Job Sikala, un député du principal parti d'opposition MDC, a été inculpé pour avoir suggéré que son parti pourrait déloger le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, avant les élections présidentielles de 2023. Selon son avocat, il nie la totalité des charges qui pèsent contre lui, a ajouté l'avocat. Monsieur Sikala devait être présenté à un juge aujourd'hui ou mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le négociateur américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a rencontré ce matin des représentants des talibans à Doha. Après 2 jours de dialogue politique inter-afghan qui s'est conclu hier soir sur la promesse d'une feuille de route pour la paix. Nathalie Barge.
La rencontre d'hier soir entre des talibans et des hauts responsables afghans a eu lieu au moment où les États-Unis cherchent à se désengager d'Afghanistan après 18 ans d'intervention militaire. Elle a fait suite à un 7e round de négociations directes entre Américains et talibans la semaine dernière, également à Doha, le plus productif à ce jour selon Zalmay Khalilzad. De leur côté, les talibans se sont félicités des progrès accomplis. Après une nouvelle rencontre avec des talibans ce matin, le diplomate américain a annoncé partir pour la Chine avant de retourner à Washington pour rendre compte et consulter sur le processus de paix. Washington souhaite arracher un accord politique avant l'élection présidentielle afghane du 28 septembre afin d'ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines, selon les vœux du président Donald Trump.
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, signataires de l'accord nucléaire conclu avec l'Iran en 2015, ont exhorté Téhéran à renoncer à ses activités d'enrichissement de l'uranium non conformes à ses engagements. C'est ce qu'ont indiqué ces pays dans un communiqué commun co-signé par la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde Téhéran aujourd'hui contre la puissance de ses avions de combat F-35 israéliens qui, je cite, peuvent arriver n'importe où au Moyen-Orient, y compris en Iran. Le président américain Donald Trump insulte l'ambassadeur britannique à Washington. Une nouvelle étape dans les relations tendues entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Kim Darroch avait sévèrement critiqué M. Trump dans des câbles diplomatiques qui ont fuité. Abdourahmane Dia.
Dans un tweet matinal, Donald Trump a traité l'ambassadeur britannique, je cite, de type très stupide, tout en réitérant ses attaques contre la première ministre Theresa May et en jugeant que les négociations sur le Brexit étaient un désastre. Dites à Kim Darroch que les États-Unis ont désormais la meilleure économie et la meilleure armée au monde, a-t-il poursuivi. Le président américain avait affirmé hier que les États-Unis n'auraient plus de contact avec l'ambassadeur, mais la première ministre britannique Theresa May avait rapidement réaffirmé son soutien à ce dernier. Toutefois, le gouvernement britannique a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les responsables de cette fuite. Dans les câbles diplomatiques publiés samedi soir par un journal britannique, l'ambassadeur qualifie le président américain d'instable et d'incompétent.
Aux États-Unis, le milliardaire Tom Steyer a annoncé qu'il rejoignait la 20aine de candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Pour rappel, il avait financé une campagne très active en faveur d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Par ailleurs, Ross Perot, milliardaire et ex-candidat à la Maison-Blanche, est décédé à l'âge de 89 ans suite à une leucémie. Il s'était présenté 2 fois à la présidentielle américaine entre 92 et 96 en tant qu'indépendant. Le navire humanitaire allemand Alan Kurdi a annoncé aujourd'hui avoir secouru 44 migrants en détresse au large de la Libye. Malte a accepté de les prendre en charge. Nous travaillons avec l'équipage d'Alan Kurdi pour organiser les transferts de migrants à Malte, a déclaré un porte-parole des gardes-côtes. Dimanche soir, 55 autres migrants secourus par l'Alan Kurdi étaient arrivés à Malte, acheminés par les forces armées maltaises. L'Alan Kurdi s'était vu interdire d'accoster à Malte et en Italie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal de la CAN, présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Les quarts de finale commencent demain. Deux rendez-vous au programme. À 19h, les bourreaux sud-africains du pays hôte feront face au Nigeria, vainqueur du tenant du titre camerounais en huitième. Le coach des Super Eagles sait à qui ils auront affaire.
This is a match between two good football teams.
Il s'agit d'un match entre deux bonnes équipes de football, entre deux équipes bien organisées. Nous les connaissons car nous avons joué contre eux déjà et nous les avons vus contre l'Égypte. Nous devons encore nous améliorer dans l'organisation. Je pense qu'ils ont également la possibilité de jouer de différentes façons. Ils doivent choisir quelque chose pour nous battre et nous aurons à faire pareil.
Gain Otror, sélectionneur du Nigeria. Bien avant ce match, le premier quart de finale de cette CAN opposera à 16h temps universel la surprenante équipe béninoise au Lion de la Teranga. Solide face à l'Ouganda, le Sénégal a montré la ressource et le talent avec Sadio Mané, nécessaire pour aller loin, mais son coach reste concentré sur son objectif. Aliou Cissé.
Je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaye de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petite équipe sur le continent africain et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petite équipe, que gagner en Afrique c'est difficile, gagner en Afrique c'est compliqué, aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué.
En face, les écureuils sont conscients du défi qui les attend, comme le dit leur coach Michel Dussier.
L'utilisation de la VAR est un plus pour le football, à mon entendement, parce que ça vient corriger des injustices par moment, quoi. Donc, moi, je le vois comme un effet positif. Après, un jour, ça peut vous servir, un jour, ça peut vous desservir. Mais je crois que fondamentalement, c'est une bonne avancée pour le football en général.
Ces quarts de finale se jouent avec un nouvel acteur, l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui sera déployée à partir de ce stade de la compétition. Le foot africain a été ébranlé par le scandale de la finale retour en Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance Sportive de Tunis fin mai, donné à rejouer après que les Marocains ont quitté le terrain en cours de partie pour protester contre une panne de la VAR. Cette technologie apparaît à partir des quarts de finale de la CAN. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés et souvent indécis. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal.
Je pense que le football doit rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire fait d'erreurs aussi, comme un arbitre peut se tromper, de la même façon qu'un joueur peut louper une passe, c'est ce qui faisait aussi le charme de ce football. Mais je comprends aussi qu'il y a eu tellement d'injustices dans ce football que les gens peuvent amener à penser autrement et dire que plus de justice dans ce football-là. Je pense que c'est dans ce sens-là que la VAR a été créée. Mais honnêtement, c'est compliqué pour moi de me prononcer là-dessus.
Le coach du Bénin, lui, a une idée claire là-dessus. Michel Dussuyer.
L'utilisation de la VAR est un plus pour le football, à mon entendement, parce que ça vient corriger des injustices par moment, quoi. Donc, moi, je le vois comme un effet positif. Après, un jour, ça peut vous servir, un jour, ça peut vous desservir. Mais je crois que fondamentalement, c'est une bonne avancée pour le football en général.
L'absence de l'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà fait des mécontents. Le coach ghanéen s'est plaint du manque de la VAR lors du 8e de finale perdu contre la Tunisie. Un match durant lequel un but pour son équipe a été annulé pour une main inexistante.
Je pense que l'introduction de la VAR aidera des pays africains parce que si nous avions la VAR pour vérifier automatiquement le but marqué, peut-être que le résultat aurait été différent. Mais en dehors de cela, dans un match de football, vous pouvez créer tant de chances de scorer, mais si vous êtes malchanceux, vous le savez, cela arrive. Vous avez tellement d'occasions et vous les manquez.
James Kwesi Appiah, sélectionneur du Ghana pour l'organisation qui s'enorgueille de la bonne tenue de la plus grande CAN de l'histoire. À 24 équipes, le succès ne sera pas total si l'utilisation de la VAR refait jaser, comme cela a été le cas lors du Mondial féminin en France et de la Copa América au Brésil. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Au Gabon, pas de session d'examen de fin d'année à l'université Omar Bongo de Libreville. Le syndicat des enseignants en grève exige la titularisation et le reclassement de centaines de ses membres et l'harmonisation des grilles salariales pour tout le corps enseignant. Le mouvement impacte le calendrier académique de l'année. Des précisions de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Sur le campus de l'université Omar Bongo de Libreville, le jeune Sylvestre Meignet du département de sociologie profite du repos obligatoire que lui impose la grève des enseignants pour jouer sa guitare.
À défaut d'aller en classe, puisque les sessions sont bloquées, on joue à la guitare.
Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Normalement, on devait être en train de faire cours. Mais à grève, on est obligé de s'occuper en jouant la guitare. Après, on a révisé, on est fatigué de réviser. On a fait le tour des cours. On attend maintenant les sessions. Une grève sur les non-salariés, les pré-salariés et aussi les infrastructures au niveau de l'université qui ne sont pas adaptées.
Vous vous sentez un peu pris en otage par ça?
Je ne pense pas qu'on est pris en otage. Je pense que c'est un mal nécessaire pour que les choses avancent.
Comme Sylvestre, beaucoup d'autres étudiants sont désemparés par la grève des enseignants du supérieur.
Déjà, nous sommes en période où on était censé passer des sessions. Et du moment où là, les devoirs ne sont pas constitués des professeurs qui n'ont pas encore programmé les devoirs, c'est-à-dire des traitements qui n'ont pas encore fait les devoirs.
Pour moi, je devais aller être en vacances, être au village auprès de mes parents, mais comme on tient encore ici jusqu'à l'heure là, je ne sais pas vraiment.
Tout porte à croire que ce débrayage qui affecte particulièrement l'université Omar Bongo de Libreville est loin de trouver une solution. Emmanuelle Nguéman, enseignante, membre du syndicat des enseignants des universités et grandes écoles du Gabon.
Rien n'a changé. Il y a eu une nouvelle grille salariale, les impôts ont augmenté, sauf qu'il n'y a aucune implication de cela sur les retraites. Et puis, il y a aussi
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enseignant qui va à la retraite ne bénéficie pas des services rendus.
Bon, services rendus, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Il y a aussi le point sur les services rendus, justement. Mm-hmm. Mais le problème de la retraite, c'est vraiment pour tous les fonctionnaires.
Pour le gouvernement, le droit à la grève est encadré par la loi, mais le ministre de l'Enseignement supérieur veut parvenir à quelques compromis avec les grévistes. Jean de Dieu, Mukanyi, Iwango.
En respectant leur grève, leur droit à la grève, et en réservant aussi le droit à ceux qui estiment avoir à continuer le travail, que ces obligations-là, qui sont toutes légales, soient observées pour conforter à la fois le droit syndical et montrer à la face du monde que le syndicalisme au Gabon est un syndicalisme républicain et citoyen.
Ces assurances n'ont pas convaincu les enseignants grévistes. Le SNEC vient de reconduire son mouvement pour 2 semaines tout en restant ouvert aux négociations. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, retour sur la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis. Mais les autorités américaines estiment que les migrants sont bien traités dans ces centres et mettent plutôt en cause le nombre croissant de personnes effectuant la traversée. Parmi ceux qui tentent cette aventure, il y a de plus en plus d'Africains. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA.
En Afrique de l'Ouest, les inégalités ont atteint un niveau de crise, tel est l'avertissement lancé par Oxfam. Alors qu'un nombre faible d'individus s'enrichit de manière inouïe, l'immense majorité de la population se voit privée des éléments les plus essentiels à une vie digne, tels qu'une éducation de qualité, des soins de santé et un emploi décent. Et cela, en dépit d'un essor économique remarquable sous l'impulsion des industries extractives. Morgane Guériac a joint à Dakar Susanna Ruiz, responsable du pôle justice fiscale d'Oxfam International.
On voit que le 1% de l'Afrique de l'Ouest a un niveau de concentration de richesse qui correspond au reste de la région, donc du 99% restant. Que les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana vont augmenter de 40% à peu près cette concentration de richesse dans les années à venir. On ne voit aucune tendance qui nous permette de dire que ça va se traduire dans une réduction des inégalités, à moins qu'il y ait une volonté politique de faire pour mettre en place des mesures qui permettent de freiner cette concentration et de redistribuer davantage la richesse qui se crée.
Alors ces pays ont un essor économique remarquable, c'est une bonne nouvelle d'après les économistes, qu'en dites-vous ?
Absolument, nous voyons comme un point très positif le fait que l'on puisse retrouver des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Sénégal parmi les économies qui ont un taux de croissance le plus impressionnant au monde et même en Afrique. Mais ce qui nous inquiète, c'est de voir que cette croissance se produit alors qu'il y a en même temps cette poussée des inégalités. Donc les deux effets en même temps, donc un risque de créer des tensions au niveau social parce que à terme, on va se retrouver avec des sociétés plus polarisées qui risquent d'interférer aussi sur la capacité des pays à lutter contre la pauvreté. Notre préoccupation n'est pas sur les niveaux de croissance, mais sur le fait que cette croissance ne soit pas une croissance qui permette une plus grande redistribution des bienfaits qui sont produits.
Alors comment remédier à ces inégalités grandissantes ?
Entre autres, d'augmenter l'investissement en politique sociale, notamment en éducation et en santé, et en protection sociale, et de retravailler sur le système fiscal pour qu'il permette de capter davantage, pour augmenter l'effort fiscal qui est dans les pays, mais surtout de ceux qui en ont plus la capacité pour redistribuer davantage. Et de travailler aussi en même temps au niveau du marché de l'emploi pour réduire l'informalité et garantir que ce marché de l'emploi est porteur, mais aussi dans un sens qui permette d'assurer des emplois de qualité et digne à la plus grande partie de la population.
Comment expliquer l'importance de ces inégalités en Afrique de l'Ouest ?
Ce niveau des inégalités se traduit dans la vie quotidienne des personnes. Ce ne sont pas simplement des chiffres froids. Par exemple, au Mali, une femme qui vient des familles les plus riches aura 15 fois plus de chances d'avoir accès à un niveau d'éducation secondaire que si elle était issue d'une famille plus pauvre. Au Nigeria, pareil, une femme qui soit issue d'une famille plus pauvre aura 26 fois moins de chances d'accéder à l'école que si elle provenait d'une famille plus riche. Dans cet écart entre les conditions de vie, l'égalité d'opportunités, les mêmes opportunités pour les uns et pour les autres. Moins de possibilités d'accès à une couverture de santé, de maladie.
Susanna Ruiz, responsable du pôle justice fiscale d'Oxfam International.
Les Soudanais continuent de se réjouir de l'accord conclu vendredi dernier entre les généraux de l'armée et la contestation sur une instance de transition. Premier signe de sortie de crise après des mois de tensions. L'ONU a salué le geste, mais reste prudente. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi appelé aujourd'hui au dialogue entre les deux camps. C'était lors d'un débat au Conseil des droits de l'homme à Genève, d'où Lisa Schlein nous a envoyé ce reportage relaté par Jacques Aristide.
Après deux nuits de pourparlers, le Conseil militaire au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier et les meneurs du mouvement de protestation se sont accordés sur une présidence alternée de la future instance appelée à diriger la transition pendant 3 ans. Pour le sous-secrétaire général aux droits de l'homme, il s'agit d'une démarche encourageante. Andrew Gilmore félicite l'Union africaine et l'Éthiopie pour leur médiation. Il ajoute toutefois qu'il faut beaucoup de persévérance et un engagement sincère pour que l'accord porte ses fruits, surtout après des mois de manifestations violentes, lesquelles ont fini par aboutir au coup d'état militaire contre Béchir.
Après la destitution du président Béchir, la haut commissaire n'avait pas manqué de souligner que la crise au Soudan trouve ses racines dans des griefs relatifs aux droits de l'homme, droits économiques, sociaux, civils et politiques non respectés, et que par conséquent, la solution doit également être ancrée dans les droits de l'homme.
Andrew Gilmore dit noter que la fin de règne d'Omar el-Béchir n'a pas mis un terme à la violence et aux abus dans le pays. D'après lui, il y a eu une répression violente des manifestations, tandis que plus d'une centaine de manifestants ont été tués par les forces de sécurité le 6 juin dernier. Les civils opposés au maintien du régime militaire, dit-il, ont été victimes de violations généralisées des droits de l'homme.
Nous encourageons toutes les parties au Soudan à continuer à résoudre les problèmes en suspens par le dialogue. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme se félicite de l'accord conclu la semaine dernière et qui prévoit l'engagement de mener une enquête indépendante sur les violences perpétrées contre des manifestants pacifiques. Il est important que les enquêtes contribuent à la justice et à la dignité de toutes les victimes de ces violences.
Pour Osama Humeida, du ministère soudanais de la Justice, le Conseil militaire est déterminé à faire respecter tous les mécanismes de défense des droits de l'homme. Il s'est exprimé par le truchement d'un interprète.
Le Soudan vit un véritable changement vers une transition du pouvoir à la suite d'une remarquable révolution populaire qui a changé la donne sur le terrain. En cette nouvelle ère, le Soudan se réjouit de la coopération et du soutien de la communauté internationale afin de relever les défis auxquels il est confronté dans tous les domaines.
Osama Humeida croit qu'il est temps que les sanctions unilatérales imposées à son pays soient levées. Il appelle également à l'annulation de la dette extérieure qui paralyse le Soudan, dit-il.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Gouvernement et organisations internationales ont condamné l'attentat à la bombe de la semaine dernière contre un centre de détention pour migrants en Libye. Attentat qui a tué plus de 50 civils et en a blessé au moins 130 autres. L'horrible incident n'a toutefois pas dissuadé les migrants désespérés qui souhaitent toujours effectuer ce dangereux voyage vers l'Europe. Le point dans ce reportage de Heather Murdoch à Tripoli. Le récit est d'Irénée Hermanongbo.
Cette vidéo provient d'un manifestant migrant qui l'a filmé en secret et l'a transmise à la VOA via les médias sociaux. Les manifestants sont à l'extérieur de ce centre de détention depuis près d'une semaine parce que les locaux dans lesquels ils étaient hébergés ont été détruits lors du bombardement. Pancarte en main, ils expriment leur détermination. Nous n'attendons que la mort et pas d'humanité. Les manifestants exigent leur libération et le passage en toute sécurité de la Libye.
Nous n'allons pas rester ici. Nous devons traverser la Méditerranée. Cela ne signifie pas que nous allons faire du terrorisme. Nous avons fui nos pays.
À quelques kilomètres de là, vivent à la Belle Étoile d'autres familles qui n'ont nulle part où aller. La plupart d'entre elles ont fui la guerre et le génocide au Soudan. Après leur arrivée en Libye, elles ont ensuite été chassées de leur logement d'urgence. Leur maison à Tripoli se trouve toujours dans une zone de guerre. Écoutez le témoignage de Naïma.
La maison n'est pas du tout bonne. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Ce n'est pas sécurisant de rester là.
Dans un centre de détention situé en banlieue, femmes et enfants languissent dans l'espoir d'être libérés. Certains ont fui la pauvreté extrême au Nigeria et sont victimes de trafic d'êtres humains. S'ils ne payent pas aux trafiquants des dizaines de milliers de dollars pour leur voyage en Europe, ils croient qu'ils seront maudits. Merci, tante, d'expliquer.
Soit vous allez mourir, soit vous devenez fou et vous serez une personne inutile. Vous serez fou.
Traverser l'Europe devient beaucoup plus difficile, indique Merci, pointant du doigt la fermeture des ports et le sentiment anti-migration que ne cessent de nourrir les Occidentaux. Mais comme de nombreux migrants, pour elle, il n'y a pas de retour possible.
Ça
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Patrick Déa était à la technique. C'était Raissa Girondin à la présentation. Restez connectés sur notre page Facebook et notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes.